des résultats un peu plus tard dans cette émission. Vince, je sais que c'est un sujet qui te touche particulièrement en tant que, bon, évidemment, de gars de sport, mais aussi de coach de football.
Ben oui.
Les commotions cérébrales, c'est probablement un terme, pas qu'on a appris cette année, évidemment, parce que, regarde, ça fait on dirait que depuis que l'être humain existe, que les commotions cérébrales, on en entend parler. C'est une inquiétude qui est constante. Peu importe l'activité que vous fassiez, veux pas, tu veux pas te péter la tête à quelque part puis te mettre à avoir des problèmes. Je sais pas si t'en as déjà subi, moi j'en ai subi quelques-unes.
Trois fois, deux au niveau collégial et une au niveau senior. C'est la dernière à me stopper le football au complet.
Ok, donc toi t'as arrêté ça. C'était pas une question de talent, c'était une question de commotion.
Ouais, c'était un peu une question de talent aussi, là.
Je vais juste vérifier.
C'est pas un très grand joueur.
Moi, j'ai eu aucune carrière parce que je me suis pété à la tête en tombant dans l'escalier. J'ai fait une commotion cérébrale assez importante, pété à la tête sur le ciment. Et dire que j'en suis totalement revenu, ce serait peut-être un peu exagéré. Mais non, sérieusement, ça m'a sonné suffisamment pour que je reconsidère à peu près tout, là.
Mais il y avait beaucoup de talent.
Oui, lui.
Il était très talentueux, c'est une carrière que...
Malchanceux, j'ai compris l'histoire.
Okay. J'ai pas parlé de la carrière que je voulais entreprendre non plus. Toi, tout le monde sait que tu voulais jouer au football.
Toi, c'est danseur nu.
Je sais pas ce qui est arrivé, ça s'est tout hormis. Mon ventre a éclaté.
Monsieur Gass, les hanches ne mentent pas. Hips don't lie. Peu importe la mode gras que vous y avez autour. Mais moi, je remarque dans le coaching, mais ça, je fais ça depuis maintenant 13 ans, il y en a plus.
Ouais.
J'en vois plus, on en subit plus, puis c'est inquiétant quelque part. Sans qu'on puisse se l'expliquer, c'est inquiétant.
Exact. Le nombre de cas mondiaux de ce qu'on appelle l'encéphalopathie traumatique chronique, rapporté entre 2009 et 2011, a augmenté de façon dramatique, passant de 48 à 102. On croit que ce n'est pas tant la prévalence de ce problème-là que le fait que le phénomène est plus connu, donc plus reconnu. Je présume que le nombre de commotions cérébrales, de sa plus petite version à sa plus grave, qui est probablement celle-là, fait en sorte augmenter aussi de la même façon. Donc, ça a probablement doublé parce qu'on en tient plus compte maintenant,
oui.
Mais aussi parce qu'on est beaucoup plus sensible.
C'est ça. Plus on en parle, plus
exact.
Ça devient grave.
Exact.
C'est un phénomène que je remarque sur les terrains aussi.
Ouais.
Des joueurs qui vont sortir plus vite d'un match parce qu'ils doutent avoir une commotion cérébrale, ce qui est très sécuritaire, puis somme toute une bonne décision. Mais ça augmente le nombre de cas statistiquement, soyez francs.
C'est très certainement la suggestion que fait l'Association québécoise des médecins du sport, qui disent il faut être plus sensible et il faut peut-être réagir plus vite lorsqu'on a des soupçons qu'il y a probablement une commotion cérébrale derrière le fait que après un coup, l'athlète en question, peut tout sport confondu, soit présente en tout cas des symptômes.
Il
faut être plus sensible à ça maintenant pour éviter évidemment que ça dégénère, parce que quand on en a fait une, la deuxième est pas très loin normalement si t'en tiens pas compte adéquatement.
Steph, j'ai coaché des gars qui restaient sur le terrain même s'ils voyaient rien. Il fallait que t'aies débarques.
Exact.
J'ai joué une demi de football, je jouais avec le plus tough. J'ai joué une demi au complet avec rien qu'un œil. J'ai dit ça va revenir.
Ouais.
Finalement, j'ai vomi après la game.
C'est
un move de sans dessin. Tu sais, par ta conviction, il peut se passer plein de choses. Ça dépend comment tu vois le phénomène.
C'est clair.
Puis même au niveau de la NFL, quand tu penses à un joueur comme Junior Seau qui a donné, lui, son cerveau à science parce qu'il dit, écoute, ils vont l'étudier. Puis tu me disais que dans plein de sports, qu'il y a des gars qui meurent puis font ça aussi.
Puis Junior Seau est un cas particulier parce que c'est probablement un des gars qui frappe le plus fort de l'histoire du football. Donc, lui, c'est indéniable que des coups de casse, il en a donné puis il en a reçu. Tu sais, puis parmi les 10, 20 plus féroces à sa position de l'histoire, tu sais, c'était vraiment un joueur spécial. Donc, lui est un cas étudié, puis j'ai hâte de savoir ce qui se passe, dans le cerveau de Junior, parce que il s'est suicidé avec des tirs à la poitrine pour garder la tête intacte.
On recommande d'ailleurs de plus en plus, puis dans la NFL, ils le font déjà, mais ça va aller à des niveaux inférieurs, de faire un suivi avant même que les saisons commencent, une espèce de suivi neuro, physiologique, j'imagine que c'est le bon terme, j'espère en tout cas, pour s'assurer là, qu'il n'y a pas de problème ou qu'on n'est pas sur le bord de connaître un drame comme malheureusement le sport nous a trop montré ces dernières années. Docteur Richard Blanchette est omnipraticien, spécialiste de médecine sportive. Docteur Blanchette, bonjour, comment allez-vous? Oui, docteur Blanchette, vous êtes là. Allô?
Oui.
Oui, bonjour. Bonjour. Ma faute, je ne puis pas sur les bons boutons des fois. Docteur Blanchette, on avait notre petite conversation à nous, des commotions cérébrales et notre perspective de notre bord à nous. Du côté de la médecine, c'est perçu comment, c'est vu comment, cette espèce de recrudescence qu'on constate de plus en plus. Puis les chiffres le démentent pas du tout, même c'est tout le contraire. Vous voyez ça comment, vous?
Bon, en fin de compte, les commotions cérébrales, c'est des traumatismes à la tête qui sont plus ou moins sévères. Ça, la plupart des commotions cérébrales, au niveau des sports, on voit absolument pas de perte de conscience. Alors, à peu près 90% des commotions cérébrales n'impliquent pas de perte de conscience. Alors, tu sais, en tant que tel, ce qui se passe la plupart du temps, le joueur est frappé, puis à ce moment-là, le cerveau, qui est une espèce de gélatine qui est brassée à l'intérieur d'une structure rigide qui est le crâne, il est bougé. Alors là, les cellules cérébrales sont un peu tordues, sont un peu coincées, puis ça donne des symptômes. La plupart du temps, une commotion, c'est que pendant peut-être 30 minutes après que le joueur a été frappé, il est pas capable d'analyser, il est pas capable de se concentrer comme il faut. Comme par exemple, une des choses fréquentes qu'on leur demande, c'est de nommer les mois de l'année à l'envers. C'est de compter 100 moins 7, moins 7, moins 7. Alors pendant peut-être une trentaine de minutes, ben, je veux dire, le joueur n'est pas capable de le faire. Puis après ça, il est bien, puis il dit, ben écoute, je suis très bien, je peux retourner. Mais je veux dire, dès qu'il fait un effort, ces symptômes-là récidivent, là, il apparaît des maux de tête et toutes sortes de symptômes de ce type-là.
J'entendais, vous avez sans doute entendu Vince, mon collègue, raconter que quand ça lui est arrivé, écoute, il y avait un œil qui marchait plus, puis il a continué à jouer pareil parce que...
Je pensais que c'était normal.
C'est ça. On le réalise pas à plus forte raison, ceux qui...
Il est fou, lui. Je pensais que c'était normal, ça fait partie de la game. T'es tellement dans ta partie à toi, tu veux pas décevoir personne, puis tu veux réussir, que tu fais fi de ce que ça pourrait se faire comme tort.
Ah, mais quand il y a deux choses là-dedans. D'abord, il y a un syndrome très, très dangereux qui peut arriver, que la personne peut faire une hémorragie cérébrale, puis décéder suite à... Si on joue alors qu'on a des symptômes, par exemple une perte de vision d'un œil, un problème de déséquilibre, puis le joueur décide de rembarquer par après, alors ça, on appelle ça le second impact syndrome, quelque chose qui est très rare, mais il y a des cas de décès qui sont rapportés là-dedans. L'autre élément, c'est que si on joue alors qu'on a des symptômes, si on a un problème de vision, c'est clair, écoutez, qu'on a fait une commotion, il faut arrêter. Si on a mal au cœur, envie de vomir, juste avoir la lumière, on est pas capable de tolérer ça, voir le bruit, on est pas capable de tolérer ça. Mais écoutez, ça, c'est des symptômes de commotion. La plupart du temps, ça dure une demi-heure, après ça, c'est fini. Mais ça veut dire qu'il faut être une semaine presque arrêté, parce que selon les protocoles de retour, dès que le joueur, le lendemain, s'il est 24 heures asymptomatique, qu'il n'y a pas de symptômes du tout, qu'il n'y a pas de mal à la tête pendant qu'il regarde la TV, pendant qu'il écoute de la musique un peu plus forte, pendant qu'il voit la lumière plus fort, ça le dérange pas. Alors, à ce moment-là, il fait 10 minutes d'activité physique le lendemain, il n'y a pas de symptômes, il continue, il augmente ça jusqu'à avoir une activité de contact au cinquième jour avec ses chums. S'il n'y a pas eu de symptômes de récidive, parce que les symptômes peuvent être disparus au repos, mais quand on fait un effort, ces symptômes-là reviennent. Alors, si ces symptômes-là reviennent, faut reculer dans la progression, puis attendre, puis on retourne au jeu uniquement si le joueur est asymptomatique.
On s'est fait expliquer ça, entre autres, dans le cas de Sidney Crosby, où on le voyait, puis il est revenu au jeu, puis à un moment donné, il s'est retiré encore, puis là, on comprenait que peut-être qu'il n'était pas tout à fait prêt lorsqu'il est revenu la première fois, puis qu'on n'a pas voulu courir de risque. C'est dans le cas, sur remarqué que tous les êtres humains qui comptent 50 buts par année ou pas, ont une valeur incroyable, mais dans son cas, j'imagine qu'on a voulu protéger aussi un certain investissement. Dans le cas des athlètes de moindre envergure, par contre, j'imagine que les très mauvaises décisions, malheureusement, se prennent trop souvent et qu'on revient trop rapidement au jeu, Dr. Blanchet.
Mais il y a une question d'éducation. Alors, tu sais, écoutez, j'ai donné un congrès à des médecins à Trois-Rivières récemment, puis la majorité des médecins pensaient que pour avoir une commotion cérébrale, ça prenait une perte de conscience. Alors, écoutez, il y a beaucoup d'éducation. Nous autres, on est habitués de travailler à l'urgence avec les accidentés d'auto, mais c'est pas ça du tout. Dans le sport, comme je dis, 90% des gens, des athlètes, ont pas du tout de perte de conscience. Écoutez, quand vous parlez de Crosby, je sais pas si vous vous souvenez de Max Pacioretty, il a frappé Christopher Le Temps. Écoutez, moi, je l'ai vu, ça, Christopher Le Temps. Il y a une fracture du nez, puis on sait, puis là, une des choses que Cantu, le docteur Cantu, qui était à notre congrès en fin de semaine passée, a parlé, le fait de pas avoir vu le coup venir, donc d'être dans l'angle mort, ça, c'est un risque important. Alors, Christopher Le Temps s'est fait frapper par Max Pacioretty, une grosse mise en échec, assez pour se faire fracturer le nez, puis mon interprétation incroyable, il est revenu au jeu, il a compté le but gagnant. Il a battu les Canadiens, après ça, il a été un mois retiré du jeu. Alors lui, là, ça, c'était dangereux pour Christopher Le Temps quand c'est arrivé, mais malgré ça, il était capable de jouer. Alors ce qu'il faut, Il faut faire de l'enseignement aux gens qui sont en place, puis il faut que l'équipe médicale soit capable de dire aux dirigeants de l'équipe, écoutez, quand nous autres on décide qu'ils jouent pas, ils retournent pas, parce que c'est clair que autant Christopher Le Temps, je peux vous dire que les sportifs de fin de semaine, comme toi, là, ça t'est arrivé quand tu as un problème d'œil, comme les athlètes qui viennent nous voir, qui veulent jouer leur match d'aujourd'hui ou de demain, même si le petit gars il a 15 ans, ben, ils veulent tous retourner, mais il y a une question d'éducation que nous, en tant que tel, au point de vue médical, on doit faire pour s'assurer que les gens connaissent bien ces situations-là. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de formations auprès des entraîneurs, auprès des équipes, auprès des athlètes, pour qu'ils sachent un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, puis auprès des parents, puis auprès des médecins, puis des superviseurs d'équipe.
Ouais, Doc, un gars comme Buté en fin de semaine, il a mangé comment des commotions cérébrales?
Ça n'a pas de bon sens. Alors écoutez, je trouve que la boxe, c'est un happening fantastique. C'est un happening fantastique. Puis Lucien Bouté, il a une gueule sympathique, il a de l'allure, il a pas l'air d'un bandit. Puis il me semble que c'est agréable de le voir. Mais j'ai entendu Régent Tremblay qui disait un matin dans une autre chaîne qui disait qu'il n'avait pas fait de commotion. Voyons donc.
Non,
c'est sûr que ce gars-là a fait une commotion, c'est certain.
Dès le deuxième round, Doc, je suis sûr qu'il en avait au moins une.
Ben, j'ai aucun doute. Alors, tu sais, c'est la même en tant que tel. Alors ça, les gars sont à risque. Puis c'est pas pour rien qu'il arrive des décès une fois de temps en temps. Alors, c'est sûr que médicalement, éthiquement, j'ai un peu de misère avec une activité sportive où le but est de knocker l'adversaire.
Mais ça a toujours été, puis en plus on appelle ça le sport d'homme. C'est un peu étonnant que des médecins laissent ça aller. Puis il y a des signes évidents. Là,
ça te prend une physionomie spéciale, ça te prend une gueule capable d'encaisser. C'est pas tout le monde qui peut boxer. Là.
Écoutez, je parlais de ça en fin de semaine parce que notre congrès annuel en fin de semaine avec un des médecins qui suit la boxe. Puis c'est lui qui suit des athlètes de boxe. C'est lui qui était venu à Québec l'autre fois avec quand Bouté s'était justement battu. Puis c'est lui qui était le médecin responsable. Puis après ça, on invite notre grand spécialiste, Dr Cantu, qui a fait les règles de Cantu au début quand ça a commencé cette commotion cérébrale. J'ai dit, quelle est notre question éthique là-dedans? Fait que j'ai trouvé sa réponse agréable en disant, écoute bien là, on n'est pas d'accord avec le fait que de faire une activité physique où le but est de donner une commotion cérébrale ou de faire perdre conscience à l'adversaire. Mais d'un autre côté, il y en a toujours eu. On peut tenter que ce soit le mieux sanctionné possible en étant avisé, en faisant plus attention par rapport si avant il y avait des 15 rondes, maintenant c'est des 12 rondes. Si on pouvait baisser ça encore un peu. Quand c'est aux Olympiques, il y a un casque. Si les gains étaient plus gros, ça pourrait être moins dangereux. Mais reste que vous avez entièrement raison. Il y a une espèce de dichotomie, d'ambiguïté là-dedans qui fonctionne pas.
Vous dites dans la publication que vous nous avez fait parvenir aujourd'hui que, et vous en parliez tout à l'heure dans le coup qu'a subi Christopher Le Temps parce qu'il l'a pas vu venir, et ça, c'est un élément qui est ultra important.
Il est allé scorer après. Hein? Oui. Il est revenu au jeu, puis il a marqué.
Vous dites, la plupart des commotions cérébrales seraient dues au fait de ne pas avoir vu le coup venir, à une mauvaise technique et à une faiblesse des muscles du cou.
Ça, c'est un élément intéressant. Quand on dit une mauvaise... D'abord, ne pas avoir vu le coup venir, c'est ce qu'on appelle l'angle mort.
Exact. Ça, okay? on le comprend facilement.
Parfait. Une mauvaise technique, c'est que il y a un principe que nos vieux coachs au football disaient tout le temps, you must see what you hit.
Exact.
Ça veut dire qu'il faut pas que tu frappes avec le dessus de la tête. Si tu arrives pour frapper un adversaire, un peu comme un taureau, faut pas que tu frappes avec le dessus de la tête. Faut vraiment que tu frappes avec ton visage. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les muscles du cou sont très importants dans la force de traumatisme à ce moment-là, puis te protègent. C'est ça la mauvaise technique. Alors si on doit toujours voir ce que l'on frappe, puis une faiblesse des muscles du cou, ça se renforcit des muscles du coup. Alors, d'intégrer à l'intérieur de nos programmes d'entraînement, de nos programmes hors saison, de faire partie, si on veut, de travailler par rapport à la musculature du cou, pas juste des épaules, mais du cou, pour diminuer le risque de commotion.
Moi, je vois ça de façon positive, voyez-vous, quand j'entends ça. Je vous entends pas être maternant puis dire, il faut arrêter le football, ça n'a pas de bon sens, c'est dangereux, les enfants vont se tuer puis voir des morts. Vous dites qu'il y a moyen. Dans le fond, c'est comme si vous donniez une espèce de technique, pas pour éliminer les commotions cérébrales, mais très certainement pour en prévenir plusieurs. C'est intéressant.
Monsieur Gass, il n'y a pas une pilule sur la Terre aussi efficace que l'activité physique. Alors, puis tous ceux qui sortent du Rouge et Or football, c'est des gars qui ont des carrières magnifiques, c'est des gars des carrières là de travailleurs par après, parce qu'ils sont habitués de respecter des règles, d'être autonomes, de s'entraîner fort, d'aller à l'école, de faire tout le kit. Là. Puis je peux vous dire que les remparts, en passant, le taux de ceux qui finissent leur secondaire est plus élevé dans la Ligue junior majeure du Québec que dans les autres, que dans la population générale. Fait que ça, en tant que tel, c'est des éléments qui sont importants pour nous autres.
Non, mais je trouve ça vraiment, encore là, je trouve ça proactif. Regarde, le sport existe, le sport, c'est bon. et vous le dites, puis évidemment, en tant que médecin sportif, j'aurais été étonné d'entendre le contraire. Or, voici, il y a des techniques qui existent et qui peuvent nous permettre d'atténuer le plus possible les effets malheureusement négatifs, des espèces de contre-coups du sport. Ben voici, travaillons là-dessus, je trouve ça le fun.
C'est en plein ça. Puis il y a un autre moyen aussi, en tant que tel, les lanceurs au baseball qui sont plus jeunes, on limite le nombre de tirs au début de la saison, on augmente ça tranquillement, graduellement. Alors, on appelle ça un pitch count, ça veut dire qu'on compte le nombre de lancers. Mais maintenant, le Dr. Cantu, ils ont introduit, ont fait une étude sur des joueurs de football où ils ont parlé des hit count, le fait de se faire frapper en tant que tel. Alors, s'ils diminuent le nombre de coups à la tête portés lors des entraînements, alors diminuer les mises en échec où la tête peut être impliquée, ils ont diminué de 50% le nombre de commotions avec des joueurs de football.
Mais ça, Doc, ça s'appelle coacher,
Ouais, mais ça s'appelle coacher, mais c'est pas tout le monde qui en est conscient. Je peux vous dire qu'on voit, vous allez sur YouTube, ça va être facile de voir des vidéos où des petits bonhommes de 6 ans se frappent tête à tête. Ou à un moment donné, il y en a un qui reste couché par terre. Quand le petit bonhomme a 6 ans, pis ça se frappe tête à tête comme deux taureaux, ben, déjà, il commence à avoir une commotion cérébrale à 6 ans. Ça n'a pas de bon sens. Alors, mais c'est pas tous les coachs qui font ça. Mais maintenant, c'est la première fois qu'il y a des éléments scientifiques qui disent, écoutez, diminuons le nombre de coups avec dans les entraînement. Alors, avec ça, ils ont réduit le nombre de commotions cérébrales de 50%. Alors, c'est des éléments qui sont, entre guillemets, très corrects, là.
Doc, il y a maximum 12 gars d'une même équipe sur le terrain au football à la fois, puis on est 50 sur le banc. Il y a des raisons pour ça, là. Faut gérer les ressources, là.
Ouais, effectivement, mais je peux vous dire que, par exemple, le Rougeur football, il y a une luxation de l'épaule à chaque match en moyenne.
Ouais.
Alors, il n'y a pas juste des commotions, mais il y en a, c'est ça.
Mais il reste quand même que, et moi, ce que je retiens de la conversation qu'on a eue, on n'a pas appris après-midi que les commotions cérébrales existaient, puis on n'a pas appris après-midi que c'était grave. Je pense qu'on le sait pas mal tous, et on sait pas mal tous aussi jusqu'où, malheureusement, ça peut, dans les cas extrêmes, mener. Sauf que l'espèce d'espoir là-dedans, c'est qu'il y a toujours moyen de moyenner. Et encore là, en travaillant sur la force des muscles du cou, parce que c'est un des trois éléments qui est pointé du doigt, peut-être qu'on peut en prévenir quelques-unes. Moi, je trouve ça intéressant. Docteur Blanchette, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Docteur Richard Blanchette est omnipraticien, spécialiste de médecine sportive. Lumière intéressante. Moi, j'ai tellement... c'est drôle, Vince, quand je prenais connaissance du message ce matin, du communiqué de l'Association québécoise de médecine sportive, là, je dis, écoute, tu penses qu'ils veulent qu'on arrête de jouer, là? Faut-tu arrêter, là? Est-ce qu'il va falloir que... Puis, juste avant de commencer l'entrevue, tu sais, ça laissait l'impression que, là, il va-tu falloir qu'on donne au hockey les règlements de la ringuette, puis plus personne se frappe, puis on est-tu en train de socceriser tous les maudits sports?
Il y a une affaire, par exemple, avec les sports de contact, comme la gymnastique, qui n'est pas un sport de contact, mais c'est des sports qui sont exclusifs à certains groupes de personnes.
Exact.
C'est pas tout le monde qui peut jouer au football. Je suis désolé de vous l'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui peuvent, notamment de plein de tailles. La beauté du foot, c'est les gros, les petits, les grands, les longs. Voilà. Tout le monde peut participer.
Peut avoir une job pour chacun. Là.
Mais tu sais, moi, j'irais pas faire des anneaux en gymnastique. Je pense pas que je sois fait pour ça. Il y a des sports qui s'adaptent bien à différents corps, différentes mentalités et façons de s'entraîner. Puis c'est pas tous les enfants ni adultes qui peuvent faire des sports de contact. Je m'excuse de vous le dire, mais je pense que c'est une réalité.
Mais il reste aussi qu'on cherche des solutions autres que d'interdire.
Oui, je sais.
On va mettre plus d'équipements, plus de casques, plus de... Non, on va trouver une façon de mieux se préparer comme individu à affronter ce genre d'affaires.
Tu sais comment il y a beaucoup d'écoles qui font le football maintenant, puis c'est un sport qui est tellement le fun. Moi, je blâme pas les jeunes d'embarquer. Je te dis juste que, comparativement à autrefois, ça a triplé puis quadruplé la participation dans bien des coins de la ville. Il y a peut-être des jeunes qui sont pas faits pour le sport de contact.
Ça se peut très bien.
D'où l'augmentation des commotions cérébrales. Je sais que les gars s'entraînent plus fort, mais l'équipement est mieux aussi.
Ouais.
Les gars sont mieux coachés qu'avant. Croyez-moi, j'ai été coaché au football et maintenant, j'en côtoie des entraîneurs, puis je parle même pas de moi, là. C'est plus droite que c'était. Donc, c'est pas juste dans le coaching. Il y a des physionomies qui sont pas faites pour se taper dessus non plus.
C'est clair.
Moi, j'y crois fortement.
Il est 3h20. Vous êtes à choix. On revient.
Retour de Radio X avec Stéphane Gass.
Monsieur Gass.
Fascinant Radio X. Le 5 à 7.
Avec il m'impressionne beaucoup.
DH.
Beaucoup.
DH. Curieux, chouineur, furteur.
Ça va être ton...